France Musique.
Bonjour à vous toutes et tous qui nous retrouvez sur France Musique et quel plaisir pour nous de vous accompagner. Mardi 7 avril et voici Musique Matin jusqu'à 9h par Jean-Baptiste Urbain.
Merci d'avoir choisi France Musique, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Matin à la maison, au programme de cette heure quotidienne toute fraîche, comment les professeurs des conservatoires enseignent-ils à distance en ces temps confinés? Raphaël Imbert est le nouveau directeur du Conservatoire Régional de Marseille. Il va nous expliquer comment ça se passe dans son établissement, touché qui plus est par une cyberattaque. Le saxophoniste de jazz a aussi un joli message personnel à faire passer en ce 7 avril. Il sera avec nous à 8h50. Chaque jour à 9h moins le quart, la nouveauté classique du jour. Tout à l'heure, on partira en Italie avec le flûtiste milanais Giovanni Antonini. Il sort un nouveau disque consacré à Vivaldi. 8h40, toute l'actualité musicale, ce sera avec Sophie Anastasio. 8h30, l'histoire du jour de Suzanne Gervais. Aujourd'hui, Suzanne nous raconte la bien belle initiative d'un fabricant de percussions en Touraine. Et puis dans un quart d'heure, vers 8h15, une voix de France Musique nous livre son choix musical. Aujourd'hui, Lionel Esparza nous emmène au couvent.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique, un réveil apaisant avec les arts florissants.
Thank you.
Jean-Philippe Rameau, l'ouverture des Indes Galantes avec les Arts Florissants dirigés par William Christie. Rameau, mais aussi Charpentier, Mondonville et Philidor, c'est tout un tableau de la musique française du XVIIIe siècle qui était au programme du concert d'ouverture de la Philharmonie de Paris. C'était le 16 janvier 2015 et ce concert donné par les Arts Florissants de William Christie, il est à voir, à revoir ce soir à 20h30 et pour 24 heures sur le site live de la Philharmonie de Paris qui, comme tant d'autres institutions dans le monde entier, d'ailleurs on en parlera ici tous les jours, eh bien propose des concerts, des spectacles en ligne. La Philharmonie, justement, son directeur Laurent Bell s'exprime dans les colonnes du Monde aujourd'hui. Alors, il fait le bilan de ses 5 années d'existence, mais surtout, Laurent Bell s'exprime aussi, bien sûr, sur la crise liée au coronavirus. Nous ne serons certainement pas les premiers à ouvrir nos espaces lorsque le confinement prendra fin, prévient-il. Et Laurent Bell ajoute que le risque de perte de chiffre d'affaires dépasse d'ores et déjà les 15 millions d'euros pour son institution. La Philharmonie doit explorer des voies rationnelles de sortie de crise budgétaire, précise son patron, tout en ajoutant qu'il faut envisager des modes d'indemnisation partiels pour les solistes et pour les chefs qui ont vu, dit-il, du jour au lendemain, des mois d'activité disparaître. Voilà un entretien avec Laurent Bell à lire ce matin dans le quotidien Le Monde.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Alors si les salles, si les théâtres multiplient les concerts et les spectacles à voir en ligne, de nombreux musiciens se produisent de chez eux, en vidéo, 2 séries de vidéos sur les réseaux sociaux de France Musique. L'une s'intitule « La ronde des musiciens », l'autre « Jamais seul avec France Musique ». Et puis certains artistes publient un morceau chaque jour. C'est le cas de David Cadouche. Tous les soirs, le pianiste poste une vidéo. C'est en noir et blanc, la caméra est toujours au même endroit. Sur le côté, on voit le musicien de profil et ses mains sur le clavier. Ça va de Shostakovich à Bill Evans comme un rendez-vous quotidien. David Cadouche, le voici dans la musique d'un grand admirateur de Jean-Philippe Rameau qu'on écoutait à l'instant, c'est Claude Debussy.
Thank you.
Feu d'artifice, extrait du second livre des préludes pour piano de Claude Debussy, David Cadouche. C'est un extrait de son dernier disque, Révolution, c'est son titre, paru en début de saison chez Mirare. David Cadouche qu'on retrouve donc tous les soirs pour sa vidéo du jour sur ses réseaux sociaux. Allez, grâce à la radio, on voyage et grâce à Denisa Kershova, tout à l'heure, on part pour Biarritz. C'est Musique Les Bains à 11h. Biarritz, Napoléon Bonaparte y baignait dès 1808. Plus tard, Napoléon III va y construire un palais pour Eugénie. Biarritz et la Côte Basque, ou bien plus tard se déroule une partie de l'affaire Stavisky, cette affaire politico-financière dont Alain Resnais a fait un film avec Jean-Paul Belmondo. Et c'est le pape de la comédie musicale américaine, Stephen Sondheim, qui vient d'ailleurs de fêter ses 90 ans. Stephen Sondheim, donc, qui en a signé la bande originale. Voici un extrait, L'aéroport de Biarritz, une musique qui n'est pas sans évoquer Ravel ou Debussy qu'on écoutait juste avant. L'aéroport de Biarritz, c'est un extrait de la bande originale du film L'affaire Stavisky, musique signée Stephen Sondheim, film d'Alain Resnais avec Jean-Paul Belmondo, il y a également Marie-France Pizier, oui, ou encore François Perrier. C'est un film à revoir sur l'excellent site de la Cinéthèque qui rassemble, ce site, les grands films du 20e, du 21e siècle, présentés par des réalisateurs. On peut s'abonner ou acheter ou louer un film pour 3 euros seulement, c'est très bien fait, c'est pratique en ce moment, et c'est indépendant. France Musique, c'est Musique Matin à la maison et tous les jours aux alentours de 8h15, nous avons rendez-vous avec une voix de France Musique. Ce matin, c'est Lionel Esparza. D'habitude, son émission Relax, c'est du lundi au vendredi de 15h à 17h. Ces jours-ci, Lionel nous propose une passionnante série d'entretiens à 15h avec le philosophe et mélomane Alain Badiou. Et ce matin, Lionel Esparza a choisi pour nous une compositrice du XVIIe siècle.
Musique Matin à la maison.
Bonjour à tous. Je voulais vous faire entendre ce matin une musique de confinement un peu particulière. Elle ne nous vient pas d'une épidémie, d'une prison ou d'une guerre quelconque. Non, mais du XVIIe siècle, c'est une musique de couvent. Vous en avez entendu parler peut-être il y a quelques mois. Emiliano González Toro, le chanteur, nous a offert un volume, un disque consacré à Chiara Margherita Cozzolani, qui naquit en 1602 dans une famille de la grande bourgeoisie milanaise. Pour des raisons qu'on ne sait pas, peut-être par conviction, peut-être pour des causes autobiographique, elle prit le voile à un certain moment de sa vie et elle le fit dans un grand établissement milanais de l'époque, Santa Radegonda, Sainte Radegonde. Le bâtiment existe d'ailleurs toujours aujourd'hui de ce couvent. Il est juste à côté du Duomo, occupé par un cinéma multiplex. C'est dire la taille de ce couvent de l'époque. Une centaine de religieuses s'y trouvaient. Parmi elles, une vingtaine de chanteuses qui étaient un grand chœur qu'on venait voir et entendre de toute l'Europe. Et c'est pour ce chœur que Chiara Margherita Cozzolani écrivit des vêpres absolument somptueuses et extatiques. Car après tout, on a beau être confiné, comme elle l'était, elle, et pendant bien longtemps, bien ça n'empêche pas de regarder vers les hauteurs.
Oh,
Le Nisi Dominus, extrait des Vêpres de Chiara Margarita Cozzolani, l'ensemble Igemeli dirigé par le ténor Emiliano González Toro, le choix de Lionel Esparza. On le retrouve, Lionel, cette semaine à 15h pour sa série d'entretiens avec Alain Badiou. Et comme toujours, les références des disques de Musique Matin et donc du choix de Lionel, c'est là maintenant déjà sur francemusique.fr. Toujours sur France Musique et juste après Lionel, Carrefour des Amériques, c'est le rendez-vous de Marcel Quiléveré, rendez-vous estival habituellement. Chaque année, Marcel part dans un pays d'Amérique latine pour glaner, découvrir des archives inédites. Cet été, il mettra le cap sur le Mexique et en ce moment, on retrouve avec joie à 16h un Carrefour des Amériques qu'il avait consacré à Cuba. Alors en ces temps confinés, il suffit d'un petit peu d'imagination pour que Paname prenne des airs de la Havane. C'est l'une des ultimes chansons d'Henri Salvador sur France Musique.
Rêver tout haut d'une île des Caraïbes et Paris sur cette île, les pieds dans l'eau, j'entends d'autres musiques, je vois des filles en maillot, magie sur le périphérique. Ce serait comme Panama, la Havane, de longues plages et plus de macadam. Bateau bleu sous le pont Notre-Dame, le plein soleil contre le vague à l'âme. Il ferait beau de décembre à janvier aux terrasses des cafés, tous des siestes interminables, allongées sur le sable chaud, boulevard des maréchaux. Ce serait comme Panama, la Havane, de longues plages et plus de macadam, des bateaux bleus sous le pont Notre-Dame. Soleil contre le vague à l'âme.
Paname à la Havane, l'une des toutes dernières chansons enregistrées par Henri Salvador avant sa disparition en 2012, chanson arrangée d'ailleurs par Benjamin Biolay, qui lui aussi tous les jours envoie sur les réseaux sociaux des chansons de lui et aussi des autres. Le violoniste Daniel Hope, lui, a choisi pendant 15 jours d'inviter des amis, musiciens, mais aussi récitants, comédiens, metteurs en scène pour des concerts à la maison. Ça s'appelle Hope Atome. Le dernier concert, c'est ce soir, mais tous les autres sont à revoir sur le site Arte Concert. Daniel Hope, le voici. Il joue Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
Le final Allegro assai du premier concerto pour violon en la mineur de Jean-Sébastien Bach, c'était l'Orchestre de Chambre d'Europe avec Daniel Hope au violon. Hope Atome, les concerts à la maison de Daniel Hope. Le dernier, c'est ce soir à 18h sur Arte Concert et les 15 précédents à revoir également. Vous écoutez France Musique, c'est Musique Matin à la maison. Ravi d'être de retour. À 8h50, le saxophoniste de jazz Raphaël Imbert sera avec nous. Il dirige aussi le Conservatoire Régional de Marseille. Il nous dira comment, en ces temps confinés, l'enseignement musical peut avoir lieu. Raphaël Imbert, pour qui ce 7 avril est également tout particulier, il nous dira pourquoi. 8h40, Classique Info, toute l'actualité musicale liée à la crise sanitaire, mais pas seulement. Ce sera avec Sophie Anastasio. Et puis là, aux alentours de 8h30, c'est le rendez-vous de Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne, chaque jour une initiative du monde de la musique face à cette crise et aujourd'hui, direction la Touraine.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui on va en Touraine, dans la commune de Ligueuil, au sud de Tours, où est installée la maison Bergerot, qui fabrique des percussions depuis un moment, depuis 1932. Des xylophones, des marimbas, des timbales, des glockenspiels, des cymbales, des grosses caisses, des triangles, des gongs, et j'en passe. Je vous parle de cette entreprise parce qu'elle a fait don de 2000 masques FFP2 au personnel soignant local, hein, les fameux masques dont on a besoin partout et surtout dans les hôpitaux. Il faut savoir que dans les ateliers Bergerot, les salariés portent des masques pour les différentes étapes de la fabrication des percussions, mais ce ne sont pas ces masques-là qui ont été donnés, hein, tout simplement parce qu'ils ne sont pas adaptés pour lutter contre la propagation du Covid-19. C'est un gros stock de masques qui avait été acheté en 2010 pour une autre épidémie, celle du H1N1. À ce moment-là, beaucoup d'entreprises avaient constitué des stocks qu'elles ressortent aujourd'hui. La direction de la maison Bergerot a donc équipé les quelques salariés qui continuent à travailler et surtout donné le stock restant aux soignants. Une initiative locale à saluer qui peut paraître une goutte d'eau, mais qui a son importance tant on sait que ces masques sont denrées rares, d'où l'importance aussi au passage d'avoir un tissu d'entreprise locale comme celle-ci. Plus largement, la maison Bergerot est représentative de la situation des entreprises de facture instrumentale en France, dont on ne parle pas assez. Ces entreprises, elles ont dû mettre une partie, voire la totalité de leurs employés au chômage technique. La maison Bergerot, comme les hautbois Marigot, les vents Henri Selmer, Buffet Crampon ou encore les harpes Camac, réalise une très grande partie de son chiffre d'affaires à l'export, 70%. En l'occurrence, et subit de plein fouet cette crise désormais mondiale. Un mot de soutien ce matin donc à nos facteurs et à nos luthiers.
Suzanne Gervais, à demain. La chronique Musique Connectée, elle est à retrouver sur francemusique.fr. Et vous citiez Buffet Crampon, ils jouent leur clarinette. Voici Nicolas Balderoux, première clarinette solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, ici dans Francis Poulenc. Thank you. Le final Allegro con fuoco de la grande sonate pour clarinette et piano de Francis Poulenc, Nicolas Baldero à la clarinette et Vahan Mardirossian au piano. Nicolas Baldero qui avait quatre de ses collègues et amis musiciens avant de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, a participé à notre série de vidéos « Jamais seul avec France Musique » sous le nom de « Lockdown Wind Quintet », le quintet avant du confinement donc. Et je vous conseille d'aller voir sur Internet ou sur les réseaux sociaux leur bagatelle avant de Ligeti, chacun chez soi évidemment, ça vaut le détour. Allez, parmi les autres spectacles à découvrir en ce moment, en ligne, à la maison, il y a énormément de propositions qui viennent du monde entier et notamment celle du Metropolitan Opera de New York. New York qui paie un si lourd tribut dans cette pandémie. Alors pour se changer les idées, pourquoi ne pas voir l'un des plus joyeux opéras de Puccini, La fiancée de l'Ouest, demain toute la journée. Il sera disponible gratuitement avec dans la distribution Deborah Voigt, Marcello Giordani ou encore Lucio Gallo. Pas Jonas Kaufmann, non, ça ne nous empêche pas de l'écouter ce matin dans cet opéra. Je sais que ça fera plaisir à certaines et à certains. Un extrait de La fiancée de l'Ouest, La fianciulla dell'Ouest, si vous préférez, de Puccini. Jonas Kaufmann, l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, dirigé par Antonio Papano. La fiancée de l'Ouest est à voir demain en streaming sur le site du Metropolitan Opera de New York. France Musique, comme tous les matins, aux alentours de 8h40. C'est l'heure de Classique Info. Avec Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Depuis la fermeture des salles de concert dans le monde, de nombreux artistes ne touchent ni salaire ni cachet. C'est pourquoi en Australie, la nouvelle plateforme en ligne Melbourne Digital Concert Hall a décidé de rendre payants les concerts qu'elle diffuse en direct. Comme pour de vrais concerts, des billets sont mis en vente à $20, ce qui permet de rémunérer les artistes. En 2 semaines, l'équivalent de 20 000 euros a été récolté. Et en France, le Centre de musique de chambre de Paris a décidé de rémunérer les musiciens engagés sur la fin de sa saison prématurément clôturée. Pour garantir la saison prochaine, il prolonge sa campagne annuelle de financement participatif. L'objectif initial de 45 000 euros vient d'être dépassé, mais la collecte continue jusqu'au 15 avril si vous souhaitez soutenir le centre. Rendez-vous sur le site centre de musique de chambre toutattaché.paris. Également dans la vie musicale, le chef d'orchestre français Pierre Bleuze a été nommé à la tête de l'orchestre symphonique d'Odense au Danemark. Il prendra ses nouvelles fonctions à partir de 2021. Au Royaume-Uni, la chef d'orchestre américaine Karina Kanellakis devient chef invité principal du London Philharmonic Orchestra. Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ont lancé Eurobalcon. Ils invitent les musiciens de toute l'Europe à interpréter le prélude du Tédéum de Marc-Antoine Charpentier tous les vendredis soirs à 19h. 1 minute 30 de musique à sa fenêtre, sur sa terrasse ou dans son jardin, à partager ensuite si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Les partitions sont à télécharger sur le site du Centre de musique baroque de Versailles associé au projet. Et on termine avec une autre initiative, celle des percussionnistes de l'Orchestre National de France et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. En clin d'œil au nouveau rendez-vous des Français qui à 20h applaudissent le personnel soignant et l'ensemble des personnes qui doivent sortir pour travailler, ils ont enregistré le clapping music de Steve Reich, arrangé pour 12 musiciens. La vidéo est à retrouver sur les réseaux sociaux et le site de France Musique, francemusique.fr.
Classique Info, Sophia Anastasio, à retrouver aussi sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité Musicale. À demain, Sophia, Clapping Reich, une superbe vidéo, drôle aussi, des percussionnistes des deux orchestres de Radio France pour applaudir à leur façon tous les soignants. Clapping, extrait. Le début de Clapping de Steve Reich avec ici les percussions de l'Orchestre Symphonique de Londres. Alors tous les jours à cette heure-ci, dans Musique Matin, on va vous proposer de découvrir une nouveauté, car ce n'est pas parce que les magasins sont fermés que les nouveaux disques ne paraissent pas. Si, ils paraissent en numérique, en digital, que ce soit en streaming ou en téléchargement. Et c'est le cas de ce nouvel enregistrement du chef italien Giovanni Antonini. Depuis plus de 30 ans, il dirige l'ensemble Il Giardino Armonico, un ensemble avec lequel il a gravé de célèbres disques consacrés à Vivaldi et notamment avec Cecilia Bartoli. Mais Antonini, il est aussi flûtiste et sur ce nouveau disque qui paraît chez Alpha, c'est de sa flûte à bec sopranino qu'il dirige des concertos du compositeur vénitien. C'est sur ce premier mouvement de ce concerto pour flûte à bec en do majeur que s'ouvre le nouveau disque de Giovanni Antonini, dirigeant de sa flûte son ensemble Il Giardino Armonico. C'est une nouveauté qui vient de paraître chez Alpha. Vous écoutez France Musique, c'est Musique Matin, oui, mais à la maison et tous les jours. À cette heure-ci, nous avons rendez-vous avec un musicien, lui aussi chez lui.
Musique Matin à la maison, France Musique.
Avec nous ce matin, Raphaël Imbert, saxophoniste de jazz, compositeur, chef d'orchestre, mais aussi directeur du Conservatoire de Marseille, le CRR de Marseille. Bonjour Raphaël.
Bonjour Jean-Baptiste.
Alors, comme musicien, mais aussi comme directeur du Conservatoire de Marseille, car il s'en est passé des choses dans votre conservatoire, comment ça se passe ce confinement et comment parvenez-vous à travailler au Conservatoire ?
Bah écoutez, déjà ça va beaucoup mieux depuis deux jours puisqu'il y a le retour de la matinale sur France Musique, donc déjà ça va beaucoup mieux pour nous tous musiciens et mélomanes. Et puis alors nous c'est un petit peu particulier, bon on a, je pense comme absolument tout le monde, absolument tous les Français et tous les mélomanes également, subit ce confinement et cette nouvelle comme une vraie onde de choc. Alors nous c'est un peu particulier, là pour parler du conservatoire tout d'abord. C'est un petit peu particulier parce qu'en plus, au même moment, mais je crois que c'est une réalité qui est maintenant assez connue au niveau mondial, c'est-à-dire que comme on utilise beaucoup plus Internet, il y a beaucoup plus de cyberattaques. Et en fait, la ville de Marseille, en tant qu'entité publique, a subi au même moment en fait du confinement une cyberattaque assez importante. Donc en fait, au moment où pour la première fois de son histoire, on fermait au public le conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, au même moment, l'ensemble de nos services était inopérant, en fait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus contacter, on ne pouvait plus envoyer de mail, on ne pouvait plus... Donc on est revenu au même moment du confinement, quasiment 40 ans en arrière. Et là, ça a été en fait une gestion de crise assez particulière, qui nous a demandé énormément d'inventivité, et là, j'ai pu constater à quel point le personnel du conservatoire a répondu présent, parce que là, il ne s'agit même pas de continuité pédagogique, dont on en parle beaucoup, évidemment, au niveau de l'éducation nationale, c'est faire en sorte qu'un conservatoire comme celui de Marseille, de la deuxième ville de France, soit opérationnel, même dans un moment comme ça, que tout le monde réponde présent. Et pour nous, l'enjeu, surtout, en fait, hein, j'insiste là-dessus, pourquoi demander des nouvelles aux élèves et voir comment ils répondent aux sollicitations de nos profs, c'est avant tout savoir s'ils vont bien, en fait. C'est même pas tant un problème de continuité pédagogique ou de contrôler leur travail, même si c'est le cas pour la plupart d'entre eux, c'est d'abord savoir si tout le monde va bien, parce que la situation est effectivement assez angoissante, surtout pour nos élèves qui ont un certain âge, qui sont par ailleurs très sollicités justement dans leur travail vis-à-vis de l'éducation nationale, pour ceux qui sont scolarisés, et puis certains, et là on est face au constat que tout le monde a, sur une sorte de disparité sociale entre ceux qui ont les moyens de continuer à faire de la musique ou du théâtre dans cette situation-là, puis ceux qui n'ont pas d'instrument, qui sont dans des situations de personnel, familial, de logement précaire. Donc c'est un vrai moment où l'ensemble de notre personnel et notre équipe peut constater des choses qu'on n'avait pas forcément l'occasion de voir à ce point-là. Et c'est très révélateur, même si c'est, je le redis, assez préoccupant. Et les profs ont été un petit peu confrontés à ça aussi. Donc là, on est en train de trouver un rythme un peu plus calme vis-à-vis de ça. Et puis je vais vous dire un truc que je ne pensais pas dire au moment où c'est arrivé, c'est que les vacances arrivent, et en fait les vacances elles vont être très utiles parce que nous tous, professeurs et mon équipe et toute la direction du conservatoire, on n'a jamais autant travaillé de notre vie en fait.
Raphaël Imbert, c'est quand les vacances à Marseille?
Alors nous c'est la semaine prochaine, je sais que je crois que c'est la zone C qui a commencé, donc nous c'est vendredi prochain là, que les vacances arrivent, et on est en train de voir avec les coordinateurs et tout qu'est-ce qu'on propose aux élèves en fait pour vivre ce moment un petit peu plus de détachement et de distance vis-à-vis de leur instrument et de leur... on a envie de leur dire de rêver un petit peu aussi leur pratique artistique. Alors à ce titre d'ailleurs, les professeurs ont fait une très belle petite vidéo assez humoristique, un message aux élèves du Conservatoire de Marseille que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui est un moment très drôle et très poétique qui s'adresse justement aux élèves dans ce moment-là.
Il y a donc de l'enseignement à distance au Conservatoire de Marseille. Comment ça se passe d'ailleurs concrètement?
Eh bien, tous les moyens sont bons, surtout dans cette situation de cyberattaque, comme je vous disais. Donc, on a dû trouver des outils. Je pense que, un petit peu comme vous, j'imagine, à France Musique, vous avez testé différents outils pour garder le contact avec vos invités et vos journalistes. Et donc, la seule chose sur laquelle moi, je n'ai pas de vision pour l'instant, c'est comment on va faire évoluer cela ou tenir cela en fonction de la durée du confinement. Parce que tout est lié à ça, en fait. Hein. Même par rapport à notre propre calendrier de concours, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, on ne peut pas faire de pronostic pour l'instant sur cette dimension-là. C'est pour ça que cette période jusqu'à la semaine prochaine avec ses vacances, a été déterminante. C'est-à-dire qu'on a réussi à prendre contact avec l'immense majorité de nos élèves. Et les retours, d'ailleurs, sont très encourageants. C'est-à-dire que leur pratique instrumentale dans cette situation-là, leur pratique artistique, est un moyen de passer le confinement différemment. Et ça, c'est un témoignage qui est important pour nous.
Raphaël Imbert, directeur du Conservatoire de Marseille, mais aussi saxophoniste. D'ailleurs, vous avez fait quelques vidéos de confinés aussi.
Alors j'en ai fait, mais je me suis un petit peu fait violence au départ parce que c'est un temps de confinement et je pense, là je vous parle en tant qu'artiste, j'ai essayé de le vivre aussi comme cela, c'est-à-dire que c'est un moment aussi où cette distance, pour moi en tout cas, elle était nécessaire. Moyennant quoi, je réponds à quelques invitations, celles de mes professeurs dont je parlais tout à l'heure, celles par exemple du chœur Paris Sciences et Lettres avec qui je participe beaucoup, avec Joanne Fargeau, qui ont construit, grâce aux moyens justement de pouvoir faire de la musique collective ensemble, ben là j'ai participé à ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu plus silencieux, et puis un peu accaparé par la mission qui était la nôtre, durant ces quelques semaines. Je vais peut-être reprendre vie en tant que musicien dans les semaines qui viennent, je verrai.
Raphaël Imbert, pour finir, vous nous avez parlé en tant que directeur du Conservatoire de Marseille, en tant qu'artiste, mais on s'est dit ensemble que vous alliez finir en tant que papa, en tant que père, en ce mardi 7 avril.
Je suis très ému parce que c'est aujourd'hui mon fils aîné, Timon, a 18 ans. Donc, je pense très fort à lui. J'ai même écrit une lettre pour lui, pour penser aussi les choses. C'est quoi d'avoir sa majorité dans ce cas-là? D'autant que je ne suis pas avec lui aujourd'hui. Et évidemment, j'ai une grande pensée pour lui et une grande pensée pour tous ceux qui vivent ce genre de moment dans cette situation très particulière. Donc, c'est aussi un moment que je voulais partager avec vous, avec lui, puis en musique aussi, hein, si possible.
Alors, il nous écoute ce matin, j'espère. Cette lettre, d'ailleurs, on peut la lire, nous?
Ah oui, je l'ai mise sur mon blog raphaelimbert.com, puis je la mettrai sur mes réseaux sociaux parce que c'est une invitation, une réflexion pour cette génération qui vient. Je crois qu'on va avoir sérieusement besoin d'eux dans les mois et les années qui viennent.
Bon anniversaire Timon, donc merci Raphaël Imbert. On se quitte avec quelle musique?
Eh bien, on se quitte avec le morceau que j'avais composé il y a 18 ans pour sa naissance, s'appelle Timon en berceuse et que j'avais enregistré en 2008.
Merci, merci beaucoup Raphaël Imbert.
Merci à vous.
le début de Timon en berceuse avec le Sixteen Group, Raphaël Imbert au saxophone. Voilà, Musique Matin à la maison, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Loïc Duros à la technique, à Sophie Pichon et à Adrien Roch à la réalisation et à Marion Guillemet pour la coordination avec Taïsia Froidure et Margot Muller. Dans un instant, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier avec au programme Les Jeunes Années de Claudio Abbado. Très bonne journée sur France Musique à la maison et à demain.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.